Radioscopie. Radioscopie.
Charles Trenet.
Jacques Chancel. Charles Trenet, nous voici au commencement du printemps et il y a justement un poème que vous avez appelé « Printemps à la Varenne, c'est le moment ou jamais ».
Vous savez tout, car je l'ai composé ce matin même. Je le dis ?
Oui.
Ah, rêver chaque fois qu'on se souvient encore, et puis se réveiller au senteur de l'aurore dans un jardin piaillant de moineaux banlieusards, avec le tendre bruit d'un train sur la colline et la Marne à mes pieds qui rêve et s'illumine. Est-ce vraiment le fruit d'un merveilleux hasard? Qui donc a décidé l'enchaînement des choses? Le charme évanescent de leur métamorphose, l'enchantement du verbe et le silence ému, la fin, le renouveau, le plaisant, le tragique, l'ange, la bête et l'homme en substance magique au sein de la nature et d'un monde inconnu.
C'est très beau, Charles, et vous travaillez, vous composez, vous n'en finissez pas de...
C'est-à-dire que pour
d'être traîné.
Pour moi, composer, ce n'est quand même pas un travail, voyez. Je pense que les choses se composent, surtout les chansonnettes, se font toutes seules en moi, et je les transcris plutôt que je les écris.
Alors, je regardais tout à l'heure et j'étais étonné, parce que c'était une constatation, 65 ans au mois de mai.
Oui, le 18.
Et 65 ans de jeunesse.
Vous savez, Picasso disait, la jeunesse, c'est une question de temps. Effectivement, mais je ne me sens pas, c'est malheureux même, je ne me sens pas mon âge.
Les années n'ont pas de prise.
Ben, je ne sais pas, ça doit provenir d'une constitution sereine, dans le fond. Je n'ai pas eu d'ennui de santé, je sais pas, ça va peut-être commencer. Mais pour l'instant, je vis exactement comme je vivais quand j'avais 25 ans. Je n'ai pas changé ma façon de vivre.
Mais vous êtes tout de même conscient que près de vous, il y a tout un monde qui bouge. Parce que vous êtes passé léger dans toute cette vie.
Non, je suis parfaitement conscient des gens, de la façon dont les gens vivent. Mais je ne peux pas leur dire tout le temps, essayez de vivre comme moi. Parce qu'on n'est jamais un exemple, finalement. Vous savez, on a une expérience, mais cette expérience n'est bonne que pour vous-même, finalement. Alors il faut que chacun fasse une expérience. Moi, si j'étais un exemple, je ne serais peut-être pas un bon exemple, finalement.
Vous représentez beaucoup, et pour beaucoup de générations, et vous le savez. Vous vous en apercevez?
Je m'en aperçois, et alors c'est assez curieux, c'est qu'il y a actuellement un retour en masse des jeunes. Vous voyez, je me trouvais chantant à Lyon jeudi dernier, dans une très grande salle de 3000 places qui s'appelle la Bourse du Travail, et il y avait à peu près 65% de jeunes. Chose qui n'était pas arrivée depuis une dizaine d'années. Il y a 10 ans, j'avais des gens un peu de ma génération. Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus intéressés, et en général par la chanson, il n'y a pas que moi qui les
intéresse. Oh, alors là, Charles, je vous arrête, parce que vous dites que vous venez de vous en apercevoir à Lyon. Je vous rappelle, à moins que vous ne l'ayez oublié, que l'année dernière, il y a eu le printemps de Bourges.
Oui,
ça. Et que quand même, tous les jeunes étaient là.
C'est vrai, ça a bourgé. Ouais. Beaucoup, oui, c'est vrai, ça. Ça bougeait beaucoup à Bourges. C'est vrai, là aussi. Alors là, il y avait 90% de jeunes. Donc je pense qu'actuellement, il se produit un phénomène dans la jeunesse, c'est que dans la chanson, enfin, les jeunes réclament d'une chanson beaucoup plus qu'ils ne réclamaient autrefois. Et ils ont peut-être assez d'un certain rythme. Ils préfèrent maintenant le texte. Et même les chansons qui étaient excitantes autrefois, qu'on appelait les chansons sexe, hein, eh bien maintenant, je crois qu'on se moque pas mal du sexe, on préfère le texte.
Là, on va rentrer dans le calembour, et je reconnais Charles Trenet, mais on s'interroge beaucoup à votre sujet, on fait même des études, on a dressé des thèses, et il faut bien reconnaître que les jeunes, les plus jeunes aujourd'hui, s'intéressent à vos chansons, et les offrent, et il faut quand même se rappeler ce que disait Yves Montand, Trenet, celui à qui nous devons tout, et combien de fois j'ai parlé avec Brassens. Que de fois j'ai parlé avec Maxime Le Forestier ou Serge Lama, qui connaissent tout votre répertoire.
Alors Brassens surtout.
Alors pourquoi vos chansons ont-elles été retenues si longtemps et pourquoi sont-elles inscrites peut-être même pour notre avenir?
Parce que je crois que dans la mémoire d'un homme aussi important que Brassens, il y a eu quand même une différence d'âge. Il avait 16 ans quand il entendait mes premières chansons, celles que je chantais déjà avec Johnny, en duettiste, avec Johnny S. Dans le numéro de duettiste Charles et Johnny. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, c'était quand même l'époque aussi de Mireille, Jean Noël, ces chansons-là, ces chansons fraîches. Et Brassens, ça l'a un peu marqué aussi. Donc il a subi un petit peu... Avant d'écrire l'influence de Mireille, Jean Noël, d'ailleurs il connaît très bien ces chansons-là, il connaît très bien mes premières chansons avec Johnny, et il connaît aussi mes premières chansons seules. D'ailleurs, il les chante souvent, je l'ai encore entendu à la radio l'autre jour, il chantait en quittant une ville, il chantait Il pleut dans ma chambre, il le chante très bien, et il fait très bien les accords à la guitare, car Brassens est un excellent musicien, on oublie toujours de le dire.
D'où vient, Charles Trenet, votre éternel enthousiasme ? Parce que c'est cet enthousiasme qui vous pousse à être aujourd'hui encore là.
Je crois que c'est une réaction chimique avec les gens. Vous savez, je ne suis pas tellement enthousiaste quand je suis seul. Alors, je ne sais pas si c'est de la pudeur.
Oui, il faut s'en méfier de ça,
Ou c'est une réaction chimique. Dès que je suis avec des gens, j'éprouve un peu le besoin ou de faire le clown, ou bien d'être vraiment très joyeux. Remarquez que les gens joyeux ne me rendent pas triste non plus. Mais dès que je trouve des gens sérieux, j'ai envie de ne pas l'être. C'est peut-être un peu d'esprit de contradiction de ma part. Mais je crois aussi que c'est une réaction chimique. Mais ça ne veut pas dire que je ne sois pas mélancolique. Mais je réserve ma mélancolie pour la solitude.
Vous n'avez jamais été à la mode. Et c'est votre mère qui le dit souvent.
Elle se trompe un petit peu. Parce qu'il est difficile de ne pas être à la mode quand on débute et qu'on a du succès. On lance quand même une mode. Mais cette mode, je m'en suis échappé très rapidement.
Mais c'est ce qu'elle veut dire.
Parce que quand j'étais soi-disant au swing à l'époque, les gens me réclamaient du swing, moi j'ai voulu faire la réaction et j'ai composé une valse, c'était la romance de Paris à ce moment-là. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Et vous savez que c'est très curieux, à propos de cette chanson, je me suis aperçu qu'elle avait une coupe d'une autre chanson. Souvent ça arrive.
Oui.
Alors on peut chanter la romance de Paris sur la valse du Congrès s'amuse. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. C'est assez curieux. Et j'ai remarqué ça dans une chanson de Brassens aussi, qu'il avait une coupe d'une autre chanson aussi. Celle des copains d'abord va très bien sur une chanson de Bruant qui s'appelle « Au bois de Boulogne ». Et qui fait, et puis c'est l'heure du rendez-vous des purotins et des filous et des escarpes et des marlous qui n'ont pas de besogne et qui s'en vont toujours par trois derrière ces vieux salauds de bourgeois leur faire le coup du père François au bois de Boulogne. Et bien ça peut se chanter sur une musique de Brassens. Et puis c'est l'heure du rendez-vous des purotins et des filous et des escarpes et des marlous qui n'ont pas de besogne et qui s'en vont toujours par trois derrière ces vieux salauds de bourgeois là faire le coup du père François au bois de Boulogne. Oui, c'est très curieux les rencontres de couple comme ça.
Et vous, Charles, vous que l'on suit, que souvent on imite, vous avez des admirations. Vous venez de chanter Brassens, je sais que... Vous avez de l'amitié pour lui, mais il en est peut-être d'autres.
Ah oui, mais c'est de l'amitié qui est à base de grande admiration, bien sûr. Oh oui, moi, écoutez, j'ai été le premier à faire l'éloge de mes camarades, et c'était un éloge très
musical.
Sincère. Quand j'ai fait « Moi, j'aime le musical », j'ai chanté les gens que j'admirais à cette époque-là, mais depuis, il y en a de nouveaux. Depuis, il y a Maxime Le Forestier, il y en a beaucoup d'autres.
Bernard Lavillier, Pascal Auberçon, Yves Dutheil...
Dutheil, j'aime beaucoup.
Mais vous les suivez, je veux dire, par là, vous êtes intéressé par ce qu'ils font.
Absolument, d'ailleurs, parce que je regarde beaucoup la télévision et j'écoute beaucoup la radio.
Parce que ça dure, Charles Trenet, et vous ne pouviez pas le prévoir lorsque tout a commencé, lorsque on disait le fou chantant, ça vous est resté quand même, ça.
Oui, vous savez, le fou chantant, c'est venu de très loin. Parce que quand j'ai débuté à Marseille, j'étais au service militaire, et alors je chantais dans un petit cabaret, qui se trouvait dans le sous-sol du Grand Hôtel et qui s'appelait Mélodie Bar, qui était tenu par Edmond Bory, le directeur de l'hôtel. Et dans ce cabaret, j'étais connu sous le nom, je n'osais pas dire Charles Trenet, je mettais Charles, parce que j'étais l'ancien Charles de Charles et Johnny qui faisait son service militaire à Istres. Et je venais donc le samedi en permission chanter. Et puis un beau jour, comme il trouvait que ça faisait un peu nu, Charles, et que finalement Charles Trenet c'était inconnu, Edmond Bory a trouvé ça, il a mis Charles le fou chantant. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, j'avais les cheveux complètement rasés, je portais un monocle. J'avais profité du service militaire pour me faire tondre. Ensuite, on a dit que c'est parce que j'étais en prison militaire, ce qui n'est absolument pas vrai. Je dois avoir fait 5 ou 6 jours de salle de police en tout, mais on ne vous tondait pas à ce moment-là, ni maintenant. Et donc, j'avais l'air d'une
monocle.
Espèce... Et le monocle. Alors, je ressemblais à une espèce de d'Eric von Stroheim un peu farfelu. Et alors, ça allait bien avec le personnage Charles Le Fou chantant. Et puis alors, ensuite, après, le surnom est resté. C'est monté à Paris, comme la Marseillaise. Et j'ai débuté sous le nom de Charles Trenet, mon vrai nom, mais Le Fou chantant. Mais alors, à ce moment-là, j'avais des cheveux, j'avais plus le monocle et je m'étais mis un chapeau. Parce que je pensais, à ce moment-là, Maurice Chevalier porte un chapeau dur, qui est un chapeau de paille. Le chapeau, c'est une silhouette. Il y a le chapeau de Charlie Chaplin, qui est un melon. Je voudrais mettre un chapeau, mais lequel? Alors, je cherchais. Alors, j'ai fait le contraire. J'ai mis un chapeau mou en arrière, car je voyais que Maurice avait un chapeau dur en avant.
Vous le mettez encore maintenant là.
De temps en temps. De
et la
temps
cravate.
En temps. Je vais passer dans une émission de télévision prochainement, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Grand Échiquier.
Oui, jeudi, oui.
Et, oui, et je crois que j'aurai mon chapeau ce jour-là. Enfin, à la fin, pour dire au revoir.
Moi, j'ai le bon souvenir, Charles Trenet, de cette émission que nous avions présentée il y a 4 ou 5 ans, où je vous avais fait rencontrer une nouvelle fois Johnny S, vous vous rappelez?
Oui,
pour refaire le couple. Car c'est quand même un grand moment de votre vie, Charles et Johnny.
Certainement, on ne savait pas où en aller. En tout cas, moi, je savais inéluctablement que j'allais vers le service militaire. Et alors, comme Johnny s'était débrouillé, lui, pour... Je crois qu'en tant que Suisse, il pouvait retarder. Mais moi, j'avais quand même 2 ans et demi de sursis. J'ai fait croire pendant 2 ans et demi à l'armée que j'étais à l'école des Beaux-Arts. Je n'y étais pas, j'étais dans les cabarets en train de chanter avec Johnny. Alors il a bien fallu que je le fasse, mon service militaire. Du reste, il s'est fait dans de très bonnes conditions, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Il a duré 1 an, comme maintenant.
Ça, vous ne regrettez rien, parce que votre père était notaire.
Oui, non. Il a toujours été très aimable.
Normalement, vous auriez dû être notaire, prendre la suite.
Non, parce que j'avais un frère Antoine qui a fait ses études de droit.
Oui.
Mon frère Antoine a eu le titre de notaire, il pouvait succéder à mon père, mais il a préféré faire de la peinture. Et moi, je préférais... Je voulais faire aussi de la peinture, mais de la peinture décorative. Alors, je suis entré dans un studio de cinéma comme assistant décorateur. Ensuite, je suis devenu accessoiriste. Et c'était à l'époque... C'était dans 1930, j'avais 17 ans. C'était à l'époque des premiers films parlants où il y avait des chansons dans tous les films. Et alors, à ce moment-là, il m'a été donné de rencontrer au studio des auteurs de chansons, des compositeurs à la mode, comme René Pujol, qui venait de tourner Le Roi des Resquilleurs avec George Milton. Et moi, j'étais accessoiriste dans un film qui s'appelait Le Roi du Cirage, qui était la suite du Roi des Resquilleurs, toujours avec George Milton. Alors, je connaissais tout de même... tous ces gens-là, tous ces auteurs, tous ces compositeurs de chansons qui étaient à la mode à cette époque-là. Et j'ai connu aussi des éditeurs, et à ce moment-là, j'ai fait la connaissance donc de Raoul Breton, qui s'est intéressé à mes chansons.
Et vous, êtes-vous sûr, Charles Trenet, d'avoir eu une vie tout à fait sérieuse, bien faite, bien tracée, ou plutôt, vous vous êtes laissé aller à la fantaisie, vous avez vécu, vous avez bu la vie?
Oui, mais je crois que c'est en me laissant aller à une certaine fantaisie, dans la mesure où cette fantaisie n'embête personne, ne dérange personne, que...
Elle est créative.
Que je suis heureux. Je suis à mon aise dans la vie. Oui, c'est vrai. Et je souhaite que beaucoup de gens soient dans mon cas. Je le souhaite même à tout le monde.
Vous n'êtes pas parfois un peu seul?
Oui, mais c'est assez agréable. Vous savez, il y a des moments où la solitude est un luxe. Où il est très agréable de... Non pas pour se retrouver soi-même, mais un petit peu pour fuir ce que les autres ne vous apportent pas ou ne vous apportent plus. Mais maintenant, vous savez, je ne suis pas tellement socratique. Connais-toi toi-même. Je trouve que c'est très bien de se connaître. Ouais. Il ne faut pas se connaître trop, parce que si on se connaît vraiment à fond...
On gomme le mystère.
On ne s'intéresse plus. Il faut se découvrir un peu chaque matin. Et je trouve que ce qui est agréable, c'est de se sentir toujours le même et un peu différent chaque matin.
Alors nous parlions à l'instant du cinéma, bon, sur le plan du musical, sur le plan de la poésie, parce que cela va plus loin que la scène de musical. Quand même, vous auriez peut-être pu faire une carrière d'acteur.
D'acteur?
Enfin, vous avez joué dans des films, mais
oui,
je ne pense pas qu'il faille les retenir pour la postérité.
Non, bien sûr que non, mais vous savez, à l'époque où j'ai fait du cinéma, d'abord, le premier film que j'ai tourné, j'ai accepté de le faire, c'était en 1938, à mes débuts, parce que le metteur en scène et le producteur m'avaient demandé d'écrire un scénario. Ce scénario, je l'ai écrit, il était déjà tout prêt, déjà depuis longtemps. Ça s'appelait La Route Enchantée. Et ça, ça m'amusait. Mais malheureusement, le metteur en scène Pierre Caron est tombé malade au milieu du film. Il n'a pas pu bien assurer la mise en scène de ce film. Mais il n'en reste pas moins que c'est un film dont je garde un très bon souvenir. Il n'est pas mauvais, ce film-là. Si on pouvait le revoir, oui. Il n'est pas mauvais. Il y a aussi un film que j'ai fait avec les frères Prévert, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Adieu Léonard, et qui passe encore dans les cinémathèques. C'est un bon film aussi. Maintenant, dire que moi j'étais un bon acteur, c'est autre chose. Je jouais. Je faisais un peu ce qu'on me demandait de faire, mais j'étais très libre quand même, dans La Route Enchantée, parce que c'était mon histoire, et dans le film avec les Prévert, car je les aimais beaucoup l'un et l'autre, et j'étais très contente d'être dirigé par Pierre Prévert et de dire des dialogues de Jacques Prévert.
Mais Charles Trenet, j'en reviens à vos chansons. Il est rare quand même qu'un auteur ait pu laisser sur les lèvres de tant de gens tant de chansons. Car vous avez écrit combien de chansons au total ?
Eh bien, il y en a à la Société des auteurs, je crois, 580 qui sont déclarées. Sur les 580, il y en a, je crois, 200 qui sont connues, puisque je le vois au droit d'auteur, celles qui sont connues, dont sont celles, il faut bien le dire, qui rapportent. Et puis il y a les autres, et puis il y a celles que j'ai mises de côté aussi, car j'en ai pas mal encore dans les tiroirs.
Que l'on ne connaît pas du tout.
Et non. Et puis il y a aussi beaucoup de chansons qui sont nées de poèmes. Ainsi, lorsque j'étais au service militaire à Istres, j'ai composé une chanson qui s'appelait « Je chante », mais je l'ai faite d'après un poème que j'avais intitulé « Le pauvre Alsacien ».
Vous pourriez me le dire, ce poème, enfin, nous le dire ?
Eh bien, il faudrait à ce moment-là que je regarde dans mes papiers, la voyant si je l'ai, je ne sais pas si je l'ai apporté. Ah, mais si, le voici. Ah oui, mais alors sans lunettes, je n'y vois rien. Ah ben merci, vous me prêtez les vôtres. D'accord. Alors voilà, ça s'appelle « Le pauvre Alsacien ». Dire pourquoi, je n'en sais rien, peut-être parce que ça a été fait avec les souvenirs de ces réfugiés que je voyais à Narbonne pendant la guerre de 14 et qui étaient des êtres mystérieux. Nous ne les avions jamais vus, nous, les gens du Nord et de l'Est, arrivés là.
C'était une découverte.
Voilà, alors c'est peut-être ça qui m'a inspiré ça au départ. Mais en tout cas, c'était un peu la philosophie actuelle des gens qui partent sur les routes pour dormir à la belle étoile, mais que l'on ne considère pas toujours très bien. Tu pleures, pauvre Alsacien, ta douleur et ta solitude sur les routes du grand soleil. Sans famille tu vas, et tu sonnes à la grille, mais la comtesse n'est pas là. Des quilles dans tes guenilles, tu trembles malgré le chaud, malgré les cigales qui tremblent, malgré la vapeur d'eau qui monte des étangs. Les fourmis te montent aux jambes, d'autres insectes t'électrisent dans le ruisseau des cordonniers. Un chat qui rôdait sur un mur saute dans le jardin du roi, pour faire peur aux demoiselles qui s'envolent au paradis. Te voilà devenu avec ta pauvre vielle, enfant des longs chemins, le fils de la poussière, qui chante de ferme en château, mais la comtesse n'est pas là. Il faut que tu caches tes larmes, que tu t'en ailles sac au dos, que tu te caches des gendarmes qu'on voit de loin sur leurs chevaux. Tous les oiseaux, tu les connais, tous les oiseaux te reconnaissent, ils te font signe dans le ciel, et ceux que l'on voit dans les vignes plus gourmands de vin que de miel, ceux-là aussi te font des signes, et tu leur réponds de la main, glaneur qui dort près des chemins. Souvent les moissonneurs maussades font chapeau bas devant le blé, Angélus à la cantonade, tu demandes, n'avez-vous pas des œufs, du pain dans vos musettes ? Je suis le pauvre musicien. Mais les femmes restent muettes, les hommes pensent, l'Alsacien, un gars de peu, un gars de rien. La nuit, le monde se nivelle, tout se résorbe, craque et crisse. Monsieur, monsieur, c'est l'Alsacien, rêvent les filles affolées, brûlantes au fond des lits. Toi, somnambule sur les toits, tu passes devant leurs fenêtres et tu glisses comme un voleur sous le manteau des cheminées, comme tu faisais autrefois au pays de ta fiancée. Là-bas aussi, on te déteste, la vie, on te l'a refusée, quand tu parlais d'île sauvage, ça faisait rire le grand-père, debout. Un jour, tu n'es pas revenu. Elle a sombré ta caravelle. Depuis, c'est toi, le tavelé, le doux, le blond, le réfugié, tignasse au vent, celui qui couche sur la paille, ivre, ne sachant pas qu'il est le prisonnier du cadre étroit de la nature, de chaque feuille, de chaque fleur, de chaque ciel, des arbres et des crépuscules, naïf et tendre aventurier, sur la planète minuscule, vagabond du calendrier. Oui, les arbres qui vont sous la pluie, vers de lointains pèlerinages, comme s'en vont moines courbés, les rochers des tristes rivages, écoutent de leurs mille oreilles la prière de l'Alsacien, La cascade qui joue de l'orgue avec son papier de manège écoute sa plainte chanson. Déjà la terre s'est penchée sur les portes de sa prison, préparant les accords de sa jeune agonie. Déjà les fantômes accourent, voici la vieille et son bâton, la comtesse et sa chasse accourent, tous les valets du monde bleu, soldats qui partent pour la guerre, les gendarmes et les fourmis, la mère en coiffe paysanne, le chat du roi, les demoiselles, les bons et les mauvais oiseaux, et la nuit qui descend, et le cerf qui se lève et qui gémit au carrefour, et le torrent qui gronde, et les rêves, les rêves, les rêves qui crient « Au secours, adieu, foison d'étoiles, harmonie, horizon que j'ai pris pour de l'immensité, cloches sonnées, riez et oubliez, riez, saules pleureurs, et vous, mes peupliers, riez, riez, vous, ma rivière et mes roseaux, riez, oubliez et riez. » Mais rien ne les distrait. Ils veillent leur ami, à présent que sur eux un bruit d'eau, un bruit d'aile, récite mot à mot du latin de colère. La poussière du soir leur fait un blanc manteau. La poussière du soir leur fait un blanc manteau. Ils ne bougent plus de leur piège. Ils ont l'air de chiens esquimaux, dormant sous un manteau de neige.
Merci Charles Trenet. Alors, ce poème, c'était avant Je chante ?
Ce poème, c'était avant Je chante. Et de ce poème, je dirais la chanson Je chante. Et je disais dans la chanson Je chante, je suis le pauvre Alsacien. Bon, mais alors après, je me suis dit tout de même... Tout le monde sait que je suis de Narbonne, ça ne va pas coller. Alors j'ai dit je chante soir et matin, voilà.
C'est une belle chanson, Je chante. C'est quand même un grand moment dans l'histoire de la chanson, parce qu'elle a été reprise et, ben, oui. Et qu'elle est restée, elle est au creux de l'oreille.
C'est ça, mais je l'aurais
je crois l'entendre là, non, quelque part.
Je chante sur mon chemin. C'est vrai, je chante, hein. Je vais le faire mon
vous avez
château.
La mémoire auditive.
Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau.
Non mais c'est vrai que ces chansons auront marqué quand même, elles sont des dates, elles sont comme des bornes. Vous savez, sur les chemins, il y a des bornes kilométriques.
Oui.
Il y a des chansons qui vous disent, tiens, c'est telle année, tel endroit, j'étais là.
C'est ça, mais on peut reconnaître l'année parce que tout de même, le texte de la chanson Je chante, dont on pourrait se dire maintenant, mais le rythme serait changé maintenant, on ferait un rythme binaire là-dessus, on ne ferait plus ce rythme-là. Mais ça ne changerait pas le style de la chanson, parce que le rythme, c'est un costume, c'est finalement.
Mais je me suis aperçu, Charles, que vous aimiez à dire des poèmes.
Oui, mais je l'ai dit mal, vous avez vu tout à l'heure. Au lieu de dire le blanc manteau, j'ai dit le manblanteau. Non, mais ça, c'était à cause de vos lunettes, là, c'est évidemment pas les miennes, là, mais enfin.
Vous dites aussi parfois que vous écrivez maintenant des chansons posthumes, ça veut dire quoi?
Oui, mais enfin, c'est des posthumes sur mesure.
Oui, enfin, d'accord. je m'y attendais pas, d'ailleurs, mais enfin...
Non, c'est-à-dire que je pense que, effectivement, étant donné toutes les chansons que j'ai en réserve, je n'aurai peut-être pas le temps de les chanter de mon vivant, voilà, c'est tout.
Il y a de la joie, c'est une chanson qui a de l'importance dans le cadre de votre œuvre.
Elle est importante pour moi parce que c'est vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie, parce qu'il y a de la joie, c'est le cadeau qu'avait fait Maurice Chevalier à l'éditeur Raoul Breton, qui venait de se marier. Et Raoul Breton avait accepté d'éditer ma chanson, mais il me dit, il faut trouver un grand interprète, je vais la proposer à Maurice Chevalier. Il se trouve qu'à ce moment-là, Raoul Breton se marie, et Chevalier, dont il était un ami, lui dit, tiens, comme cadeau de mariage, je prends une chanson de ta maison, celle que tu voudras. Et Breton lui a donné, il y a de la joie. Alors, j'ai rencontré Maurice Chevalier qui m'a dit il faut quand même un petit peu l'arranger parce que c'est un peu trop foufou, tout ça. Effectivement, il y avait des paroles qui ne sont pas les mêmes que celles-là. Je disais, par exemple, le garçon boucher qui va sur ses 15 ans est fou d'amour fou pour une femme à Jean, et la femme à Jean qui va sur ses 100 ans est folle de bonheur de cet amour d'enfant. Il y a de la joie. Alors, évidemment, ça ne plaisait pas.
Vous l'entendez, il y a de la joie, là, parce que j'ai fait toute une liste de chansons pour nous faire plaisir. Écoutez.
Seul dans mon coin, il y a de la joie, le percepteur, message à
ah oui, à cette époque-là, je disais le percepteur, je ne sais pas pourquoi dire ça.
On se rappelle, Charles Trenet, en 1977, vous aviez fait vos adieux musicals. C'était de vrais adieux. Vous aviez pensé quoi à ce moment-là?
J'ai pensé qu'à ce moment-là, je me sentais très en forme et je me suis dit, c'est le moment pour laisser un bon souvenir au public qui m'a fait l'honneur de venir me voir pendant de nombreuses années.
Il a envie de vous revoir, le public.
Oui, mais alors à ce moment-là, c'est différent, parce que il a envie de me voir, d'accord, mais il ne faut pas qu'il soit déçu. Alors, tant que je serai en forme, je chanterai. Seulement, il y a un moment où on ne se rend pas compte qu'on a faibli. C'est ça le danger. Et je crois que finalement, vous savez, les artistes ne se retirent pas. C'est le public qui se retire d'eux. Et alors, il vaut mieux prendre les devants et annoncer carrément ses adieux. Moi, j'ai fait mes adieux à Paris, au Music Hall de Paris, aux Parisiens. Il me reste à faire mes adieux en province. J'ai fait mes adieux dans les grandes villes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Lyon,
Paris. Ce sont vraiment des adieux dans ces villes-là.
Oui, je ne reviendrai pas. Je n'y reviendrai pas. Je n'y reviendrai plus, comme disent les enfants. Oui. Mais si je me sentais... Vous savez, j'ai fait mes adieux parce que j'ai peur de ne plus être en mesure de donner au public ce qu'il attend de moi. Voilà.
Puis vous voulez qu'on garde une bonne image de
une
vous.
Une bonne image, alors que je ne ferai jamais mes adieux à la télévision. La télévision, ben, on s'adresse à tout le monde à la télévision, et on s'adresse à des gens qui ont votre âge, qui trouveront tout naturel que l'on vieillisse. Seulement à ce moment-là, à la télévision, on ne vous demande pas de chanter, de faire un récital de 2 heures. Et même si on le fait, on peut l'enregistrer. C'est encore un moyen de perpétuer un souvenir, la télévision.
Vous savez que jeudi, nous sommes en direct. Hein.
Ah, ne l'oubliez justement. Pas. Mais ça, ce ne sera pas mes adieux à la télévision, même en direct. Parce qu'enfin...
Non, vous avez besoin de tout cela.
Je vais chanter une dizaine de chansons.
14.
14, ouais. Ah bon, il y a de la demande alors. Mais il y a quand même une différence entre le fait de chanter toute une soirée. Là, je vais avoir des moments extrêmement agréables.
Aussi, tous les autres qui chantent pour vous.
Voilà, où je n'aurai plus à m'écouter.
Vous êtes quand même beaucoup chanté, et cela doit être un bonheur quand même d'entendre les autres porter les paroles et les musiques.
Surtout que ce sont d'excellents interprètes. Juliette Gréco, pour qui j'ai composé Coin de rue, je l'ai composé ça d'une façon assez curieuse. Nous dînions ensemble et elle m'a dit « Tu devrais me faire une chanson ». Et je lui ai composé Coin de rue. D'ailleurs, elle l'appelait Coin de table pendant longtemps parce que je l'ai composé ça au dessert.
C'est comment Coin de rue déjà ?
Eh bien, justement, je ne m'en souviens plus. Ah non, si, justement. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Et moi, je pensais à mon coin de rue de Narbonne. Et alors, on a fait ça en disque, un orchestre comme ça qui joue coin de rue. Et alors, on entend François, etc. Mais c'est pas ça, c'est pas mon coin de rue à moi. Moi, à ce moment-là, on me disait, allez, pêche.
Le coin de rue, c'est le coin de rue à Toulouse, le coin de rue à Perpignan, le coin de rue à Narbonne, à Béziers.
C'est exactement le coin de rue de Narbonne. Oui. Nous habitions juste à un coin de rue. Hein. C'était un coin qui était un tournant. Et un tournant de ma vie, du reste. Et c'était la fin de la rue de Nancy et le commencement de l'avenue de Marc Aurélien, qui s'appelle maintenant avenue Anatole France. Et alors, c'était curieux parce que j'habite au numéro 2, et on ne sait pas où est le numéro 1, il n'y en a pas. Il y a toujours eu un numéro 2. C'est très curieux, ça.
Enfin, les souvenirs d'enfance sont très précis chez vous. Vous vivez avec votre enfance.
Oui, mais je pense que tout le monde...
Oui. Oui. C'est nécessaire,
il y a parfois des gens qui ont une certaine pudeur de leur enfance. Ils trouvent que ça ne serait pas sérieux de parler de leur enfance. Et peut-être aussi que les poètes sont plus attachés à l'enfance. Parce que, Cocteau disait, il y a les poètes et les grandes personnes.
Les grandes personnes, oui.
Et peut-être que les poètes sont attachés à leur enfance. Vous voyez, ce que j'aimais le plus, moi, dans Jean-Christophe, puisqu'on en parle maintenant à la télévision, c'était les premiers chapitres, l'aube, le matin. J'aimais ça, tous ces souvenirs étaient très frais d'enfance. Et dans les Thibauts, qui mieux qu'Anatole France a parlé de l'enfance aussi, dans le petit Pierre ou Pierre Nozière, c'est merveilleux. Et François Mauriac, dans Les commencements d'une vie, qui est un livre qui est très peu connu, et qui est très très beau.
Enfin, c'est Cocteau qui disait cela, il y a les enfants, les poètes et les grandes personnes.
C'est ça, il y a les poètes et les grandes personnes.
Non, les enfants d'abord.
Oui, il avait dit une méchanceté une fois sur Minou Drouet. Il a dit que les enfants sont poètes sauf Minou Drouet. Ce qui était quand même assez inexact, parce que je crois que Minou Drouet était poète. Mais enfin, Cocteau disait ça pour sa méchanceté, pour rire.
Alors maintenant, vous avez votre nom au dictionnaire Larousse.
Mais oui,
et vous êtes ce que vous ne vouliez pas être, c'est-à-dire un monument historique.
Mais et oui. C'est dans le petit Larousse. Oui, enfin, dans l'encyclopédique, dans le grand, ça y était déjà. Mais alors, je pense que c'est un très grand honneur d'être dans le petit Larousse. Moi, ça m'a fait un grand plaisir, même d'avoir que 3 lignes, c'est très bien.
Et pourtant, vous n'êtes pas une vieille gloire qui pontifie.
Non,
vous êtes un monument historique quand même.
Je ne saurais pas le faire, mais il faudrait que je prenne des cours comme ça. Auprès de gens qui pontifient. Vous savez, ce serait bon à faire quand même, à un certain moment, comme ça, dire « Oui, tout de même, maintenant que j'ai 65 ans, il faudrait tout de même commencer à être sérieux, n'est-ce pas, mon cher Chancel ?» Vous savez, actuellement, je suis en train de suivre un régime pour mincir. que j'appelle le régime Jacques. Enfin, le régime sans sel. Le régime Jacques sans sel.
Vous aimez les calembours, vous aimez les mots.
Non, oui, je peux pas être sérieux. Là. Si je dois pontifier, je ne suis pas sérieux.
Alors, le dictionnaire, demain à l'Académie française, ce serait bien qu'un poète...
Mais ça, c'est une idée à vous, cette Académie française.
Oui. Parce que, ça m'amuserait.
Vous parlez de l'Académie.
Vous, Brassens, à l'Académie. Il y a bien René Clair.
Mais alors, vous aussi. Alors, parce que je suis sûr que s'il y a Brassens, vous et moi, on ne va pas s'ennuyer.
Non, mais enfin, c'est une chose que vous refuseriez si on vous la proposait. Je sais bien que vous n'irez pas faire la quête.
C'est très compliqué. Vous savez, mais remarquez qu'on peut vous porter à l'Académie française sans faire toutes ces visites. La preuve, c'est que Monterland y a été installé.
Julien Green.
Il ne voulait faire aucune visite. Et à ce propos, Cocteau m'a dit un mot magnifique, parce qu'il refusait, Monterland, de faire les visites. Et Cocteau me dit, qu'est-ce que tu veux ? Il veut bien la voiture, mais il ne veut pas faire la demande de carte grise.
À propos de Monterland, il y a le poème que vous aviez composé pour lui, Jeunesse.
Oui.
Et puis la lettre que vous avez de lui, qui est belle.
Que je pourrais... Oui, il m'a répondu tout de suite, c'est assez curieux du reste, que le Mercure de France lui soit tombé sous les yeux, comme ça, il m'a répondu une très gentille lettre. Je pense qu'on pourrait faire dire ce poème dans votre émission, un de ces jours, même après-demain, si vous voulez, si nous avons un... quelqu'un qui
mais veut pourquoi aviez-vous composé ce poème pour Monterland ? Pourquoi Jeunesse ?
Parce qu'à ce moment-là, j'avais 19 ans. Je m'occupais beaucoup de sport. Vous savez qu'à Narbonne, je suis né dans le rugby, moi, puis on faisait beaucoup de natation.
Vous avez joué au rugby ?
Ah oui, beaucoup. Et nous avons à Narbonne l'une des plus belles piscines de France. Je faisais beaucoup de natation avant, du reste, avant qu'il y ait la piscine.
Et quel poste vous aviez au rugby ?
Trois carrels, bien sûr.
Trois carrels, très bien. Oui, rapide.
Oh ! Comme l'éclair. J'aimais beaucoup ça. Et je jouais beaucoup avec Arthur Comte aussi. Il a joué beaucoup au rugby aussi. D'ailleurs, lui, il a gardé la stature d'un rugbyman. Et donc, à ce moment-là, dans ma jeunesse, c'était une jeunesse sportive. Et nous étions vraiment tout à fait épris des poèmes olympiques de Monterland. Alors, quand j'écris ce poème Jeunesse, où je parlais déjà des vestes de cuir à l'époque, ça faisait bizarre, parce qu'on ne pensait pas s'habiller en cuir à ce moment-là. Que mon cœur fit trois bonds sous ma veste de cuir, je disais. Et je l'ai dédié tout naturellement à Monterland.
Puisque nous parlions des honneurs à l'instant, Charles Trenet, on pourrait dire que souvent, et même toujours, vous avez préféré l'œillet à la Légion d'honneur.
Oui, bien sûr, mais vous savez, je ne méprise pas du tout les honneurs, et je ne méprise pas non plus ceux qui les aiment. Mais je peux dire très franchement que je ne les recherche pas. Alors si des honneurs m'arrivent, je les accepte, mais je ne suis pas quelqu'un qui va quémander des honneurs. Je ne dis pas ça par forfanterie, c'est ma nature. Ce n'est pas non plus que je laisse tout tomber, mais j'estime que si on veut me donner des décorations, on m'en a donné une qui s'appelle comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, c'est le... Je suis chevalier des arts et des lettres, c'est très bien.
C'est bien.
C'est très bien, c'est très bien porté. Mais je suis chevalier des arts et des lettres depuis longtemps, il y a une quinzaine d'années.
Donc officier aujourd'hui ?
Je ne sais pas encore, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je ne méprise pas du tout les gens, même ceux qui recherchent les honneurs, du moment que ça leur fait plaisir. Je suis, moi, pour tout ce qui fait plaisir à tout le monde, dans la mesure où ça ne gêne personne.
Ouais. Alors Charles, 65 ans en mai, 45 ans de chansons et pas du tout de mélancolie.
Si, certaines mélancolies, oui, je l'ai exprimé parfois. Tout de même, on ne peut pas dire que les chansons, moi, les plus connues dans le monde, ce n'est pas des chansons tellement gaies. Voyez, Que reste-t-il de nos amours est une des chansons les plus connues, parce que nous avons calculé qu'elle est jouée 50 fois par jour dans le monde entier. Et ce n'est pas une chanson tellement gaie, Que reste-t-il de nos amours. La mer, ce n'est pas une chanson gaie. Je crois que les chansons gaies ont marché.
J'entends quelque chose, là.
Devant le feu qui s'éteint. Ce soir,
oui.
C'est une chanson d'automne dans la maison.
Ils ont bien travaillé la technique parce que...
C'est extraordinaire, chaque fois que nous parlons d'une chanson,
Non, parce que nous avons toutes vos chansons là, je vous le préviens tout de suite. Et il est maintenant 17h38 et nous sommes en direct.
Le long des golfes clairs.
Voilà cette vieille mer, c'est une grand-mère maintenant, depuis le temps qu'elle existe.
C'est la chanson la plus connue de Charles Trenet, La mer.
La mer, que reste-t-il de nos amours, c'est connu... d'une façon égale, et joué à peu près un petit peu partout, avec la différence que la mer est surtout jouée par les orchestres dans le monde entier, et que reste-t-il est interprété.
Enfin, votre place, Charles Trenet, est quand même un peu à part. Pour vous, on n'est jamais tombé en syncope. Pour vous, on n'a jamais cassé de fauteuil. Mais pour vous, on est allé très loin.
C'est vrai, on n'a même pas cassé le fauteuil, même pour dire que ça n'intéressait personne, ce que je faisais, c'est vrai, mais...
Ça vous manque un peu, vous le regrettez qui...
Non, pas du tout, au contraire, moi je suis ravi d'avoir un public tranquille. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est prendre un public quand il est vraiment tranquille, et puis alors, que ça monte. Et vraiment avoir les gens debout, comme avant-hier à Lyon, ça commençait très doucement, et ça s'est terminé vraiment presque... En folie, alors, vraiment. Ça, c'est très agréable, parce que alors, l'enthousiasme du public monte avec le vôtre. J'aime bien entrer en scène un peu à froid, même si ça doit décevoir un peu les gens.
Mais j'ai l'impression quand même que...
D'autant plus que, excusez-moi de prendre la parole, j'ai toujours le trac, et je l'ai de plus
toujours, en
plus.
Maintenant encore, là?
De plus en plus. Non, pas avec vous, là.
Non, mais je veux dire, là, aujourd'hui.
Nous sommes avec des amis qui nous écoutent. Même à la télévision, j'ai pas beaucoup le trac. J'ai le trac en scène les soirs de première, et pourtant, il n'y a que des amis qui viennent à ce moment-là. Mais j'ai le trac. Et le trac provient, beaucoup d'artistes vous le diront, mais c'est pas moi qui ai trouvé la formule. On a peur de pas être à la hauteur de ce que l'on représente, peut-être, pour les gens. Voilà. Alors, quand j'ai débuté, je n'avais pas de trac. J'ai eu le trac de plus en plus. J'avais rien à perdre quand j'ai débuté. Je me suis dit, après tout, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera la semaine prochaine.
Mais il y a une trentaine d'années, lorsque vous écriviez vos poèmes qui devenaient très vite des chansons, vous aviez l'impression, vous pensiez que ces poèmes, ces musiques resteraient?
Non, je n'ai pas pensé travailler pour une postérité.
On est surpris par ce que l'on devient.
Oui, c'est assez curieux du reste, parce qu'il m'arrive de me promener comme ça dans la nature, de rencontrer des gens qui passent à bicyclette, il y en a de plus en plus maintenant, heureusement, et bien quand ils me voient, ou bien ils font « je chante », ou bien il y a de la joie. Enfin, tout de même, c'est des chansons qui ont 40 ans.
Parce que, regardez justement, « Ficelle, tu m'as sauvé la vie, Ficelle, sois donc béni ».
Oui, mais c'est pas « tu m'as sauvé la vie », c'est « tu m'as sauvé de la vie ». Vous voyez, c'est pas tellement gay, cette histoire.
« Ficelle, tu m'as sauvé de la vie ».
De la vie, c'est le type qui se pend pour être libre. Ouais. C'était un petit peu...
« Ficelle, sois donc béni ».
Sois donc béni, oui. C'est une espèce d'apologie du suicide. C'est pas tellement gay, cette chanson-là.
Mais vous êtes gay d'ordinaire.
Mais oui, bien sûr.
Oui, vous avez une façade gay. Et
peut-être.
Vous ne pensez qu'à faire des blagues.
Oui, mais c'est que sans doute aussi, je suis quand même...
La petite machine de l'intérieur, là.
Oui, je vous le disais tout à l'heure, je réserve ça pour quand je suis seul. Et puis alors, ça ne me va pas, moi, la tristesse. Vous voyez, si, à moins qu'elle soit musicale, qu'elle soit un peu pathétique. Mais ça ne va pas. Vous savez, les gens qui ont le visage rond ne peuvent pas avoir l'air triste. Et quand ils le sont, eh ben, ça fait mauvaise humeur, ça ne fait pas tristesse profonde. On dit, oh, il est de mauvaise humeur, il est de mauvais poil. Alors moi, j'ai horreur de ça.
Enfin, tout à l'heure, vous disiez, Charles Trenet, que vous ne souhaitiez pas tellement vous interroger, mais depuis quelques années, il y a des chansons qui ne vous ressemblent pas trop, où vous allez un peu plus loin. Et tout cela est parti avec Fidèle.
Oui, mais Fidèle, c'est une espèce d'album de ma vie où je dis que je suis resté fidèle à beaucoup de souvenirs.
C'est comment Fidèle, déjà? Qu'est-ce qu'il y a dans les paroles?
Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol de l'hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout, un vieux toutou, une boîte d'aquarelle et le port de la Nouvelle au mois d'août. Car là, on allait passer les vacances toujours à la Nouvelle. Là, c'était à 25 km de Narbonne et on partait avec le train, on y allait.
Parce que pour beaucoup, vous êtes quand même un mystère. Hein. Certains disent caméléon, d'autres disent passe-muraille. Enfin, il faudrait dire poète, tout simplement.
Je ne sais pas, oui, on a commencé à dire poète à propos de la chanson L'âme des poètes. Je crois que ça a été une espèce d'étape dans ma vie. J'ai cessé d'être le fou chantant à partir du moment où la chanson L'âme des poètes, qui est d'ailleurs une chanson assez mélancolique, a été connue. D'ailleurs, elle avait du mal, parce que les gens étaient restés ancrés dans cette idée. Et quand j'ai apporté La mer, qui était une chanson lente, c'était l'époque du swing, on me disait, mais faites du swing, vous êtes fait pour chanter des choses rapides, et moi je voulais faire une chanson lyrique lente.
Vous écoutez là, L'âme des poètes.
Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait...
après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore.
Vous aimez vous écouter ?
Pas tellement, j'ai une espèce de maladie, c'est que quand j'écoute un disque, j'ai envie de le refaire. Je vous dis ça sans fausse modestie, c'est vrai, parce que je me dis, tiens, j'aurais pu mieux faire. Mais alors, la chanson « L'homme des poètes », voyez-vous, je l'ai quand même écrite un jour où j'étais assez mélancolique. Je l'ai écrite à New York, et comme mes jeunes années. Je crois que les chansons un peu tristes, je les ai écrites à l'étranger.
Au loin.
Dès que je suis en France, je suis plus joyeux, c'est vrai. Et alors, je me disais à ce moment-là, bon, mais maintenant, j'ai 40 ans, je suis à moitié de ma vie. Si je viens à disparaître, qu'est-ce que j'aurais laissé? Je vais faire une chanson de testament. Et alors, c'était un souhait. Je me disais, si je venais à disparaître, alors peut-être que mon âme, à ce moment-là, se traduirait par les petites chansons qui restent encore et qui courent au coin des rues. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je ne voulais pas dire par là que je ne croyais pas à l'immortalité de l'âme. Je croyais que l'âme des poètes, enfin des poètes de la chanson, des petits poètes de la chanson, c'était leur chanson.
Mais vous y pensez de temps en temps à ce départ définitif, à ces vrais adieux?
Eh bien oui, bien sûr, comme tout le monde.
Vous n'avez pas écrit là-dessus quand même?
Non, je ne pense pas que c'est un sujet qui soit tellement dans mes cordes, mais enfin, il faudrait bien quand même que je le traite.
Mais vous savez...
Qu'il me traite.
Vous savez, Charles, certaines de vos chansons, lorsqu'on les chante au loin, et cela m'est arrivé, lorsqu'on est loin depuis longtemps, c'est-à-dire lorsqu'on est loin de la France et que cela dure, et que l'on est loin de la France depuis 1, 2, 3, 4 ans, et lorsqu'on entend des chansons comme « Revoir Paris », comme Douce France, vous savez, alors là, ça vous fiche un coup.
C'est vrai, vous savez que Douce France est une chanson qui est très connue au Canada, où, il faut bien le dire, dans la province de Québec, on est resté un petit peu royaliste en ce qui concerne la France. Et alors un jour, c'est une petite anecdote, mais c'est vrai, le général de Gaulle venait en visite à Québec, et officiellement, au lieu de lui jouer à la Marseillaise, on lui a joué Douce France. Et le général a écouté ma chanson au garde à vous, comme si c'était un hymne national.
Écoutez, là.
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village.
Où l'avez-vous composé cette chanson?
Je l'ai composée pendant la guerre, pendant l'occupation. Parce que alors, c'est dans ces moments-là qu'on se sent le plus patriotique. Mais à propos encore de Douce France au Canada, c'est assez amusant. Une fois, je me trouvais en visite dans une école. Et le maître d'école me dit, je vais vous faire chanter, mes élèves. Vous allez voir, ils connaissent une belle chanson française. Et ils me font entendre Douce France. Ils ne savaient pas du tout que c'était de moi. Et il ajoute, c'est Thibaut, ces chansons du XVIIe siècle. L'instituteur dit ça.
Enfin, Charles, beaucoup... Enfin, tous les chanteurs connaissent vos chansons. Mais vous connaissez les leurs, vous? Vous connaissez celle de Brassens, vous l'avez prouvé tout à l'heure.
Oui, mais...
Lama aussi vous connaît bien.
Bien, mais j'aime beaucoup leurs chansons, mais je ne me sens pas le talent de les chanter, en tout cas pas en public. Mais je me chante beaucoup de leurs chansons pour moi.
Vous avez été le premier beatnik, hein?
Alors, sans le savoir.
Sans le savoir, oui.
Sans le savoir.
Quand la chanson, c'était votre drogue.
La route enchantée. Rivière, mon ami, c'est pour toi que je chante. Il y a toute l'écologie là-dedans. Et vous, petits oiseaux, écoutez-moi. Cochons, vaches, et vous, bêtes méchantes qui hurlaient dans les bois, demain, etc. Mais ça, c'est évidemment cette idée-là. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Mais j'avais une envie de la nature. Et alors, on a dit que c'est parce qu'à ce moment-là, c'était les premiers congés payés, que j'étais inspiré par ça. Mais pas du tout, j'étais ravi qu'il y ait eu les congés payés, mais j'avais fait mes chansons avant les congés payés. Or, ça a été une espèce de rencontre. Les gens qui sont partis, c'est vrai, pour la première fois en congés payés, chantaient ces chansons qui parlaient de la nature. Mais je les aurais faites de toute façon.
Vous composez tous les jours, aujourd'hui encore?
Mais oui. Je compose pas tous les jours. Je ne fais
enfin,
pas
vous écrivez quand même.
J'admire Victor Hugo qui se mettait à sa table tous les matins et qui écrivait 100 vers. C'est fantastique. Voyez-vous, je ne me suis jamais assis à une table en me disant « je vais écrire une chanson ». La chanson, j'en ai l'idée, elle se fait un petit peu toute seule en moi et puis ensuite je la transcris, comme je disais tout à l'heure, oui, plutôt que je ne l'écris. Et bien souvent, il m'est arrivé de les dicter quand elles étaient faites, comme ça, directement... un secrétaire.
Et tout à l'heure, Charles Trenet, nous parlions des calembours, par exemple, dans la pharmacie, là, on vous reconnaît, des arlequins, des caïquiries.
Ah oui, il y a beaucoup d'allitérations.
Et tout un lot de quincailleries. Alors là, c'est du Trenet tout pur, un peu plus loin, d'ailleurs, dans une autre chanson. Le débit de l'eau est si laid, et le débit de lait si beau.
Ah oui, vous savez que cette chanson-là, je l'ai faite avec Francis Blanche. À qui les boules, le débit de lait, à qui les laits, le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si laid, s'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Nous étions en tournée en Belgique et nous étions dans un tram. Et tout d'un coup, je vois un magasin qui s'appelait débit de lait. Je dis à Francis, tiens, c'est très amusant, débit de lait, si à côté il y avait débit de l'eau. Il me dit, oh, c'est très joli, débit de l'eau, débit de lait. Et on a fait la chanson comme ça.
Et tout à l'heure, je vous ai parlé de votre enfance parce que j'ai retrouvé, je ne sais pas si la chose est exacte, je ne sais pas si vous l'avez bien dit, mais vous allez le confirmer ou l'infirmer. Toute ma vie, j'ai couru après l'enfance que je n'ai jamais eue. Les enfants s'ennuient le dimanche, je n'ai jamais aimé mon sort.
Ah oui, mais ça, c'est dans plusieurs chansons.
Oui,
ça.
Mais enfin. Hein?
Toute ma vie, j'ai couru...
Toute ma vie, j'ai couru après l'enfance que je n'ai jamais eue.
J'ai eu une enfance, mais enfin, elle n'était peut-être pas comme j'aurais voulu qu'elle fût. C'est possible.
Alors, vous l'imaginiez voilà comment, voilà?
Eh bien, peut-être plus tranquille. Une enfance plus tranquille, moins cahotée de pensionnat. J'aurais aimé avoir une enfance. Mais je ne le regrette pas, parce que ça m'a donné justement une certaine liberté dont j'ai profité. Aussi, alors je me demande... Alors je me suis dit, après tout, je n'ai peut-être pas eu l'enfance que je voulais, mais j'ai eu la liberté que d'autres enfants n'ont pas eue et j'en ai profité. Alors j'ai toute ma vie pour vivre une enfance.
Et puis toute votre vie a été libre.
Absolument.
Mais pour être libre, il faut peut-être à certains moments être un peu égoïste aussi.
Oui, mais je crois que l'égoïsme...
Il vous a fallu être seul pour être libre.
Oui, d'ailleurs, comme il faut être seul pour être égoïste.
Ouais,
mais l'égoïsme n'est pas... C'est un mot qui fait peur aux gens, mais on peut très bien être égoïste et puis aussi avoir le sens de faire des cadeaux à tout le monde, de donner. Égoïste, pour moi, ça veut dire qu'il... c'est un certain... Peut-être un peu épicurien, mais sans tomber dans le sybaritisme. On peut... profiter des bonnes choses de la vie, mais la vie est égoïste. S'il n'y avait pas l'égoïsme, il n'y aurait pas la vie, et s'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas l'égoïsme. C'est la même chose, l'égoïsme, c'est la vie. Seulement, ça ne peut pas dire par là qu'il faut faire comme les haricots qui détruisent d'autres haricots pour arriver à pousser. Ça, je ne le ferai jamais. Moi, je suis bien content d'être arrivé à me faire connaître sans avoir fait de tort à personne.
Vous n'avez rien à vous reprocher?
Non, mais peut-être qu'on a des choses à me reprocher, mais moi, je ne me reproche rien.
Au printemps de Bourges, Jacques Higelin, et je cite à dessein Jacques Higelin, parce qu'on aurait pu croire qu'il était très éloigné de ce que vous faites, disait « Les chansons de Charles Trenet sont des fenêtres ouvertes sur l'air pur ». Vous vous donniez l'impression de donner de l'air pur aux autres?
Mais écoutez, cette histoire de la fenêtre, on l'a dit tout de suite à mes débuts.
Oui.
Et on disait « Charles Trenet, c'est une fenêtre ouverte sur la chanson, etc. » Fenêtre, fenêtre. Et un jour, je passe dans la rue, il y a une dame qui me toise, comme disait Sacha Guitry, de haut en bas et de bas en haut. Et elle me dit « Mais oui, c'est une fenêtre !» En me voyant. C'était ça, on le disait aussi. On a dit aussi un coup d'aile dans la chanson française. C'était des slogans comme ça de cette époque-là. Mais je suis bien content d'être une fenêtre. Et voilà pourquoi je m'identifie un petit peu à la télévision, qui est, elle, une fenêtre immense sur le monde.
Enfin, la tramontane a bien soufflé pour vous.
Vous voyez, le cerf aussi, parce que
il
y a les deux
vrai,
vents. Vous savez, à Narbonne, ça s'appelle le cerf. Et à Perpignan, c'est la tramontane, mais c'est plus ou moins le même vent.
Enfin, Cocteau est mort il y a combien de temps?
Ben, ça fait 15 ans.
Et il disait déjà, traîner, c'est un feu de paille qui dure.
Oui, parce qu'on lui
ça
avait...
dure, hein.
C'est une réponse de Jean Cocteau, parce qu'on lui disait, oh, traîner, c'est un feu de paille. Et il a répondu, mais c'est un feu de paille qui dure.
Enfin, vos refrains, Charles, n'ont pas pris d'âge, n'ont pas de rides, et c'est quand même, c'est peut-être cela le succès. Et c'est même pas vous couvrir de fleurs, hein, c'est constater tout simplement. Cela doit gêner quand même quelques-uns de vos ennemis. Vous avez des ennemis?
Mais je ne connais pas.
Écoutez, si on vous disait...
Mais il me semble que si j'en avais, oui, ils se manifesteraient, je recevrais des lettres anonymes.
Oui. Vous n'avez jamais eu une lettre anonyme?
Oh, peut-être deux ou trois dans toute ma vie. Et ce n'était pas... c'était pas au point de vue artistique. Alors, je n'ai pas d'ennemis, je ne crois pas.
Donc, vous avez eu la vie rêvée?
Je pense, oui. Je pense que j'ai vécu très agréablement. Et si je devais recommencer, je vous le dis puisque vous ne me posez pas la question, eh bien, je pense que je travaillerais moins. Voilà, je serais un petit peu plus paresseux. Je prendrais un petit peu le temps. Parce que toujours, je pensais que pendant 25 ans, je n'ai pas pris un jour de congé. J'ai chanté tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je le faisais parce que ça me plaisait.
Et vous avez un métier qui est un métier d'amour.
Oui.
Donc ça n'est pas une peine.
Mais depuis que j'ai espacé les contrats, je me suis remis à faire des choses que je ne faisais pas à ce moment-là. Je refais un peu de peinture, j'écris.
Vous allez exposer bientôt parce que j'ai vu quelques-uns de vos tableaux.
Non, non, je n'exposerai pas parce que quand on expose, on s'expose. Et non.
Quelles sont les chansons que vous ne présentez pas en public, qui sont peut-être pour vous les plus belles?
Non, je pense que les chansons qui plaisent le plus aux gens sont celles que j'aime le plus aussi. Seulement, je suis tout de même toujours un petit peu en avant sur les gens, étant donné qu'il y a des chansons que le public ne connaît pas, sans celles que je prépare maintenant. Mais je prépare un nouveau tour de chant où je mettrai sur les quelques 50 chansons nouvelles que j'ai et que personne ne connaît, j'en mettrai bien une dizaine maintenant.
50 chansons nouvelles?
Oui.
Que vous avez pour vous, pour le moment?
Oui, absolument, oui.
Qui, à votre avis, resteront
Ça, je n'en sais rien.
On peut imaginer, on peut savoir quelle est la chanson. Par exemple, lorsque vous avez composé La Mer, Mes jeunes années.
J'en fais une maintenant qui dit un petit peu de mal de moi.
Alors, comment ça fait?
Qui dira non, 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 monsieur le poète, vous ne nous avez pas dit la vérité quand vous nous disiez que la vie est une fête. Je crois bien que vous mentiez quand vous nous parliez, etc. Enfin. C'était ça, des gens qui reprochent aux poètes de leur avoir peut-être montré la vie sous un jour trop beau. Et alors à ce moment-là...
Vous le reprochez alors C'est vous qui le reprochez
à Trenet. Non, je sens que peut-être on pourrait me le reprocher. Alors à ce moment-là, je donne la réponse. Je dis, je parlais, moi, de ma vie intérieure, c'est tout.
Alors dans Ne cherchez pas dans les pianos, qui est une très très belle chanson, d'ailleurs on commencera par celle-là, hein, je dis, ne cherchez pas dans les pianos, vous n'y trouveriez le plus souvent que la chanson du vent d'automne, mon seul ami dorénavant.
Oui, c'est-à-dire...
C'est une chanson où, dans une chanson, on met quand même beaucoup de son cœur, on s'exprime.
Oui, c'est peut-être dit avec un petit peu de mélancolie, pour situer un peu l'atmosphère de la chanson. Mais si je n'avais que la chanson du vent comme seul ami, je me sentirais quand même un peu seul. Mais il y a des... Je voulais dire, ce soir-là, le soir oui. où j'ai composé cette chanson, j'entendais le vent, je l'ai composé à Aix-en-Provence. Le vent qui gémissait, c'est le Mistral là-bas. C'est toujours le même vent, mais là-bas, c'est le Mistral. Eh bien, j'entendais le Mistral qui gémissait, mais c'est le vent marin qui gémit encore mieux. Alors je pensais que ce soir-là, évidemment, j'étais seul, et que c'était mon seul ami. Et peut-être, dorénavant, ce serait peut-être le seul. Mais enfin, c'était un peu mélancolique, mais ça va avec la chanson.
Plus tard, beaucoup plus tard, Charles Trenet, que faudra-t-il retenir de vous?
Oh ben, ce qu'on voudra.
Dans quelle chanson?
Peut-être des chansons qui n'ont pas été tellement connues, comme La Pavane des Patronages. Mmh. Elle n'est pas tellement
connue.
C'est
comment, La Pavane des Patronages?
Eh bien, Jacques Martin nous a fait la joie de la chanter l'autre jour dans cette émission à la télévision. C'est...
Ah, mais j'ai vu, J'ai vu, mais vous l'avez vu. C'est pour écouter.
Sur les bancs, comme des images, et dans l'œil de monsieur l'abbé, on voit au sommeil attablé, on voit au sommeil attablé, tous les enfants des patronages. Alors qu'est-ce qui fait? Etc. On va chanter ça après-demain avec accompagnement d'orchestre.
Alors les patronages, puis d'autres chansons.
Ah, moi j'aimerais bien que l'âme des poètes
l'âme des poètes,
me survive, oui. Parce que ça a été fait pour ça.
Et le jardin extraordinaire.
Le jardin extraordinaire, oui, mais je lui trouve, voyez-vous...
Non, si parce que peut... je voudrais l'écouter, moi. Alors.
Ah oui. Mais si je peux critiquer un peu le jardin extraordinaire...
Critiquer très net.
J'aime bien me critiquer. C'est vrai, après tout. Je trouve que c'est un peu Walt Disney. C'est un peu de la poésie, comme ça, de dessin animé.
On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet.
Vous donnez-vous le sentiment, Charles Trenet, d'être l'héritier de Charles Trenet en ce moment?
L'héritier de son talent ou de son argent?
De son argent, je sais, oui. Vous allez le donner à quelqu'un, votre argent, à propos?
Oui, bien sûr.
Il faut mais bien. Vous n'avez pas d'héritier, en fait.
Oh, si, tout de même.
Merci. Si. Les neveux. Si, des...
C'est ça, j'ai un frère et une sœur. Mais enfin, je pense beaucoup à l'assistance publique, qui est une très belle œuvre.
Vous voulez faire des choses, hein.
Oui, bien sûr, parce que finalement...
Mais on sait que vous en faites déjà.
Oui, d'ailleurs, la plus belle chose que je fais actuellement avec mon argent, c'est de payer régulièrement mes impôts. J'en suis très fier.
Vous avez quelque chose là, vous avez mis mes lunettes, c'est pour dire quelque chose?
Non, parce que je pensais que par opposition justement à ce jardin extraordinaire qui est un petit peu Walt Disney, presque carton-pâte, je voudrais vous dire, si on peut terminer notre petit entretien là-dessus, sur la fin du poème dédié à Monterland, et qui disait justement « Venu de l'océan, une large musique se noyait dans le ciel puissant, tes dents riaient, un long poème nostalgique jaillissait de ta voix, de tes dents, pour retomber en cascadant. Amour, je défiais les rafales, et le sable que je serrais très fort dans mes deux mains glissait à lents intervalles, comme le temps, comme les jours, comme demain. »
Charles Trenet, j'espère vous le dire jeudi une fois encore, puisque nous nous retrouverons ensemble sur le plateau du Grand Échiquier et nous serons en direct et vous chanterez. Je voudrais vous dire que nous sommes nombreux à vous devoir beaucoup de bonheur. Vous savez, je vous chantais lorsque j'étais plus jeune.
C'est vrai.
Et alors,
mais continuez.
Non, comme ça entre nous.
Continuez.
Mais je connaissais toutes vos chansons. Et je les connais encore, mais je ne chanterai pas. Je vous vois tout de suite l'œil allumé et amusé. Non, non, non.
Mais pourquoi pas?
Merci, Charles Trenet. Donc, rendez-vous jeudi à la télévision.
Et oui,
merci.
Parce que le chancel y est de l'échiquier.
Ah bon, ça, c'était la chute, hein.
Dans l'échiquier.
France Inter, 18h01. Charles Trenet, j'attendais Jean Lucquès et on me prévient qu'il est dans un autre studio. Alors nous allons le rejoindre. Je vous dis quand même que demain, il y aura une autre radioscopie et demain, je recevrai l'écrivain François Caradec.
Oh, que je connais très bien. Bien.
Oui. Alors demain, François Caradec, à demain, bonsoir. Interdernière. Ah non, peut-être le générique d'abord. D'accord. Interdernière, Jean Lucquès.
Je suis là. Dernier visiteur de la journée pour le président de la République, visiteur de taille, il est vrai, François Mitterrand, le premier secrétaire du Parti Socialiste, s'entretient depuis environ une demi-heure avec le chef de l'État. On rejoint tout de suite à l'Élysée Paul Amar.
Eh bien, François Mitterrand est effectivement arrivé à l'heure, à 17h30. Il était accompagné de Laurent Fabius, son chef de cabinet, mais l'entretien se déroule en tête-à-tête. Vêtu d'un costume gris et d'une cravate rouge, le chef du Parti Socialiste semblait assez impressionné par le nombre considérable de journalistes français et étrangers. Les membres de services de sécurité, qui sont eux aussi très nombreux, n'en reviennent pas. Même les chefs d'État les plus illustres n'attirent pas autant de monde, disent-ils. Tous mes confrères attendent désormais la fin de l'entretien, qui devrait durer plus d'une demi-heure. C'est l'indication donnée par Nathalie Duhamel, attachée de presse du Parti Socialiste. Les journalistes qui sont arrivés le plus tôt en ont profité pour se placer sur le perron tout près des portes de verre de l'Élysée. Et cela pour ne pas manquer la déclaration que François Mitterrand aurait l'intention de faire à la fin de son entretien avec le chef de l'État.
Oui, en tout cas, c'est la première fois que François Mitterrand est reçu par le président de la République depuis le début de la Ve République. C'est aussi la première fois qu'il se retrouve face à M. Giscard d'Estaing depuis mai 1974. La journée a été chargée pour le chef de l'État, puisque ce matin à 10h, il a reçu Jacques Chirac. J'ai fait part au président de la République, a dit le leader du RPR, de mes sentiments sur la situation politique de la France. Les deux hommes ont évoqué ce que Valéry Giscard d'Estaing a appelé la cohabitation raisonnable entre majorité et opposition. Après Jacques Chirac, ce sont les dirigeants des quatre grandes organisations agricoles qui se sont rendus à l'Élysée. La marée noire, en raison du mauvais temps, le dynamitage de l'Amoco Cadiz qui était prévu pour aujourd'hui a été reporté de 24 heures. Les plongeurs de la marine nationale n'ont pu être déposés en raison du vent par hélicoptère sur le pont du navire. On estime que 20 000 tonnes de pétrole environ se trouvent encore dans les cuves du pétrolier. Il s'agit de s'en débarrasser au plus vite pour éviter que la marée noire ne se réalimente tous les jours. En ce qui concerne le nettoyage des côtes, les opérations se poursuivent. 2000 soldats et des centaines d'habitants de la région y participent. Au total, on considère que depuis le début des opérations, plus de 10 000 tonnes de pétrole ont été collectées. Mais c'est cette semaine que démarrera véritablement le nettoyage des plages. France Inter a voulu contribuer au vaste mouvement de solidarité qui se manifeste en faveur de la Bretagne. Aujourd'hui a été lancée l'opération Bretagne Service. Il s'agit d'une campagne d'information intensive du consommateur afin d'éviter que la Bretagne connaisse une catastrophe économique qui viendrait s'ajouter à la catastrophe écologique. France Inter veut lutter contre l'idée qui s'est répandue dans l'opinion publique selon laquelle les produits bretons sont pollués et la saison touristique compromise. Au contraire, il faut inciter les Français à consommer breton afin d'aider l'économie de cette région. Par ailleurs, France Inter met à la disposition des habitants de la Bretagne et du public jusqu'aux grandes vacances un numéro de téléphone, le 524 13 13, destiné à faire connaître les possibilités d'accueil offertes au tourisme et à obtenir tout renseignement, notamment, par exemple, sur le problème des indemnisations. Toujours à propos de cette marée noire, les responsables qui sont chargés de coordonner la lutte contre la pollution s'inquiètent quelque peu des appels lancés ici et là aux jeunes Français pour participer au nettoyage des côtes. Les Bretons sont évidemment touchés par ces marques de sympathie, mais il faut éviter l'arrivée en masse de jeunes bénévoles qu'on ne pourra ni héberger, ni nourrir, ni même utiliser. L'affaire Empin, la police recherche activement le frère d'Alain Cailleul qui habite Grenoble et qui a, comme par hasard, disparu de son domicile depuis jeudi dernier. François Cailleul pourrait bien être l'un des cerveaux de cette affaire Empin. Une autre affaire d'enlèvement qui cette fois n'est pas élucidée. En Italie, on est toujours sans nouvelles de M. Aldo Moro, aux mains des Brigades Rouges depuis le 16 mars. La police affirme qu'elle a identifié formellement 7 terroristes, 5 hommes et 2 femmes, mais pour l'instant, aucun mandat d'arrêt n'a été délivré. Interjeune, Interservice Chantal.
Oui, un Bretagne Service dont vous parliez tout à l'heure. Eh bien, si le mazout pollue la côte bretonne de Porsal à Trégastel, le reste des côtes de la péninsule n'est pas atteint et les vacances d'avril se préparent activement dans les stations du rivage, aussi bien qu'à l'intérieur des terres. Voici à ce sujet les dernières précisions qui nous sont données. Pour les amateurs de voile, contrairement à ce qui a été annoncé, les stages des Glénans fonctionneront. Seuls les stages de Paimpol ont été transférés en Bretagne du Sud. À Rosbras-Brignaux aussi, il y a encore des places disponibles. Ceux qui choisissent le tourisme vert peuvent profiter des très nombreux stages proposés par la Fédération des auberges de jeunesse, tissage, poterie, céramique, etc. Enfin, l'UCPA vous propose des randonnées équestres en armorique. Chaque jour d'ici l'été, nous vous donnerons ainsi des informations touristiques pratiques sur la Bretagne et vous pourrez nous téléphoner au 524 13 13 pour des renseignements complémentaires. Bretagne Service, 524 13 13.
Merci Chantal. Les courses maintenant, la 7e, le prix de Bourges, tous courus. Premier le 700 de Fartam, gagnant 3,60, placé 1,60. Deuxième le 711, Banquier, placé 2,50. Et troisième le 706, Cousin Gontran, placé 6,10. La 8e et dernière course, le prix Burgave 2, tous courus. Premier le 804 Bambrook, gagnant 2,20 francs, placé 1,20 francs. Deuxième le 809 Styrène, placé 1,90. Troisième le 806 Emiliano, placé 1,80. À 19h15 sur France Inter, le téléphone sonne.
524-71-00, j'écoute.
Quels sont les risques réels de reprise des combats au sud Liban? Comment M. Begin peut-il s'y prendre pour renouer le dialogue avec l'Égypte? Ce soir, le téléphone sonne à Jérusalem chez M. Eli Ben Elissar, directeur général de la présidence du Conseil, un des plus proches collaborateurs de M. Begin, le Premier ministre d'Israël. Réponse en direct à toutes vos questions. Numéro d'appel 524-71-00 de 17h à 20h.
Votre région a besoin de vous. Pour financer son développement et améliorer la qualité de votre vie, le Crédit Agricole lance l'emprunt printemps 1978. Taux nominal 11%, taux actuariel brut 11,06%, durée 15 ans, obligation de 1000 francs. Le Crédit Agricole, c'est le bon sens près de chez vous.
Je vous retrouve à 18h30 pour les titres de l'actualité. Tout de suite, c'est Saltimbanque, Jean-Louis Foulquier, Jean-Pierre Pinault.